un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Jean-Louis, au micro de Radio Libre en Périgord, pour cette chronique du groupe Fred Zeller, du lundi 5 août, qui en fait a été enregistré vendredi 2 août, puisqu'il m'était impossible d'être présent dans les studios de RLP ce lundi 5 août. Je vous propose de commencer cette chronique en écoutant cette déclaration faite lors d'une émission C'est dans l'air il y a quelques jours seulement. Nous écoutons.
Des images de Gaza, quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement?
Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui a été complètement, qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux, qui étaient des hôpitaux un peu importants, ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des milliers de morts sous les décombres. Qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, et donc d'où les épidémies dont on parle, et là on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins, problème de l'eau qui n'est pas du tout, qui ne peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs, pour aller où on n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens dans la panique se déplacent et puis 2 heures après on va leur dire, mais non, il faut aller là-bas. Et donc il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr. Les zones qui avaient été soi-disant nettoyées par Israël, en fait il y a eu des combattants du Hamas qui sont réapparus, donc il y a des combats qui reprennent. Donc il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. Même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. Et donc on est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traitées, pas c'est mon expression, mais comme du bétail. C'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant les Gazaouis disent de toute façon, on nous dit de partir, mais on ne va pas partir parce qu'on est déjà parti 3, 4, 5, 6 fois. So what, pour arriver à quoi? Et on continue à se faire bombarder. Donc il y a vraiment un sentiment, mais une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. Et les quelques témoins, il y a encore des médecins d'organisations internationales, MSF ou autres, qui arrivent à envoyer des missions qui font ponctuellement, qui rentrent et qui ressortent. Et lorsqu'ils vous décrivent la situation, vous restez absolument... Enfin, c'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand on voit l'air un peu réjoui de Netanyahou lorsqu'il va à Gaza, c'est absolument indécent de pouvoir s'exprimer et montrer ce visage avec cette espèce de petit sourire en coin pour dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire. On est loin, on n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population.
Nous venons donc d'entendre Agnès Levallois dans le cadre de l'émission donc C'est dans l'air il y a quelques jours. Agnès Levallois est la vice-présidente de l'association IREMO. IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. C'est un institut français indépendant, basé à Paris, sous la forme d'une association loi de 1901, déclarée d'intérêt général. IREMO œuvre et s'engage depuis 10 ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales liées aux régions du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. Ces réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées, car on ne peut rester neutre devant des sujets qui concernent autant nos sociétés, qu'il s'agisse des conflits au Proche et au Moyen-Orient, de l'immigration, de la sécurité en Méditerranée, de l'islamisme, de la régression des libertés civiles, de la liberté de culte ou de l'environnement. Agnès Levallois que nous venons donc d'entendre, et comme je l'indiquais, vice-présidente de l'IREMO, c'est une consultante spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po Paris. Elle a occupé les fonctions d'analyste Proche-Orient au secrétariat général de la Défense nationale, puis responsable du bureau Monde arabe et persan à la délégation aux affaires stratégiques au ministère de la Défense. Elle a également été journaliste à Nord-Sud Export, groupe Le Monde, collaboratrice au Monde de l'économie avant d'en être directrice de l'information et des programmes de RMC, filiale arabophone de RFI, puis directrice adjointe de la rédaction de France 24 en charge des contenus en langue arabe. Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Confluence Méditerranée. Donc, j'ai pris le temps donc de présenter Agnès Levallois et l'IREMO parce que ça donne d'autant plus de poids à la déclaration que nous avons donc entendue en tout début de chronique. Et cette déclaration ne fait que confirmer les centaines et centaines, les milliers de témoignages qui nous parviennent, en particulier sur les réseaux sociaux, photos, vidéos, déclarations, qui montrent comment Gaza est absolument rasé de la carte, par d'une façon totalement délibérée. L'armée israélienne et les colons dans les territoires occupés dévastent ces villes et Gaza, les photos le montrent très clairement. Plus rien n'est debout. Les routes sont défoncées par les bulldozers, jusqu'au cimetière défoncé par les bulldozers. Il n'y a plus aucun service qui puisse permettre à la population de vivre dans un minimum de sécurité, et tant sur le plan alimentaire que sur le plan sanitaire. Alors, je voudrais vous lire également une déclaration d'Alexandre Tatillon, directeur de l'ONG Supernovae. Objectivement, toute la bande de Gaza est détruite, il faudra des dizaines d'années avant de pouvoir reloger les gens correctement. De retour dans la ville de Gaza où il s'est rendu début juillet, le directeur de l'ONG Supernovae témoigne de l'agonie du territoire palestinien. Alexandre Chatillon, directeur de l'ONG française Supernovae à Gaza, le 15 juillet 2024. Ancien diplomate, Alexandre Chatillon dirige l'ONG Supernovae. Bénéficiant de financement du ministère des Affaires étrangères français, elle a ouvert un bureau à Gaza en 2023 pour accompagner des femmes vers l'emploi et le marché du travail. Depuis le 7 octobre 2023, elle porte assistance à ces femmes déplacées, organise un soutien psychologique et sensibilise aux violences faites aux femmes dans les camps de réfugiés. Elle finance aussi des activités à destination des enfants de retour dans la ville de Gaza où il s'est rendu début juillet. Il témoigne de l'agonie du territoire palestinien. Donc, question posée à Alexandre Chatillon. Quelle est la situation dans la bande de Gaza alors que l'armée israélienne multiplie les incursions et force quotidiennement des milliers d'habitants à se déplacer? Réponse. Nous ne pouvons plus accéder à Rafah dans le sud. Le quartier où j'ai séjourné en marche a été ravagé. Tout le sud de la bande est un champ de ruines. J'ai pu accéder à Deir el-Bala et dans la ville de Gaza. Les humanitaires sont concentrés dans une toute petite zone, à la merci des attaques israéliennes. Nous sommes censés bénéficier d'un mécanisme de « déconfliction ». Une plateforme des Nations Unies nous permet de localiser les maisons dans lesquelles nous logeons et de signaler nos déplacements qui sont envoyés aux autorités israéliennes pour validation. Elles sont censées nous appeler pour nous évacuer si elles interviennent dans la zone. Dans les faits, cela n'arrive jamais. Protéger les humanitaires n'est pas un enjeu pour l'armée israélienne. Les gens se déplacent depuis octobre 2023. Souvent, ils se sont déjà déplacés une fois, deux fois, trois fois. Les camps de déplacés sont aujourd'hui organisés et on sent que cela va être long. Au sud, la population est entièrement parquée dans la zone humanitaire qui fait 4 km de long sur 1 km de large. La pression démographique est colossale sur un tout petit territoire. Les réfugiés vivent toujours sous les tirs et témoignent d'un effondrement de la sécurité. Qu'en est-il ? Le premier élément de l'insécurité permanente, ce sont les bombardements. La zone humanitaire était censée être une zone protégée. Mais comme on l'a vu à Nusayrat, le 15 juillet, une frappe visant le supposé numéro 2 du Hamas a fait 100 morts. Quand je suis dans la ville de Gaza et que je demande aux gens pourquoi ils ne descendent pas vers le sud, la réponse est toujours la même. Pourquoi y aller et s'y faire quand même bombarder? Ils préfèrent rester chez eux. Tous les gens qui sont dans le sud rêvent, eux, d'une trêve pour remonter dans le nord, où vivent encore 350 000 personnes. Mais pour l'instant, ceux qui tentent de passer se font tirer dessus par les Israéliens. Des gens ont été tués la veille de mon arrivée. Si beaucoup gardent l'espoir, et heureusement d'un point de vue psychologique, objectivement, toute la bande de Gaza est détruite. Il faudra des dizaines d'années avant de pouvoir reloger les gens correctement. Ce sont des générations qui sont perdues. Dans les camps, il y a aussi une vraie insécurité liée au fait qu'il n'y a plus de police. C'était déjà le cas en mars quand j'y suis allé. Aujourd'hui, le problème a pris de l'ampleur. Des familles résolvent leurs différends avec des armes. Il y a toujours des meurtres, tous les jours, des meurtres et des règlements de compte. Les violences contre les femmes sont un phénomène qui explose avec la guerre, les déplacements, la promiscuité, les tensions liées au bruit des drones, à la guerre, au manque d'argent. Les femmes sont très vulnérables. La guerre est un environnement propice aux violences. Un autre élément touche, lui, les commerçants, les pilleurs. Quand on entre dans Gaza par le terminal de Kerem Shalom, côté israélien, il y a 300 à 500 hommes cagoulés, armés de bâtons, qui attendent les camions. La Chambre de commerce de Gaza estime que 30% des camions qui entrent sont pillés. Qui fait entrer ces camions dans le territoire palestinien? Deux types de convois passent. Ceux du secteur privé qui ont l'autorisation des Israéliens de ne faire entrer qu'une quinzaine de produits, des fruits et légumes, principalement achetés en Israël. Il faut 48 heures pour faire rentrer un de ces camions dans la bande de Gaza, ce qui est très peu dans le contexte actuel. Tout ce qui est délivré par la communauté internationale peut en revanche rester bloqué pendant des mois. Ça vient de Jordanie ou d'Égypte. En ce moment, il n'y a plus aucun produit d'hygiène. Les gens ne peuvent plus se laver, se brosser les dents, il n'y a plus de savon. Il est impossible de trouver de la lessive. Il faut 3 mois à notre ONG pour faire entrer ces produits. Dans les faits, il est interdit d'importer du papier toilette, des détergents, des habits. Les entrepreneurs privés doivent payer 3 500 $, c'est-à-dire environ 3 200 €, pour sécuriser leur convoi sur 10 kilomètres. Pendant ce temps-là, des centaines de camions attendent à la frontière, bloqués par les Israéliens. Or, plus on fait entrer de camions, moins il y a de pilleurs. Cela assèche leur boucher, entre guillemets. Nouvelle question. Beaucoup d'habitants disent recourir au marché noir pour se nourrir, mais ne pas avoir les moyens de payer. Les prix sont délirants. Une cigarette coûte 25 €, par exemple. Elles sont introduites par contrebande car Israël en interdit l'importation. Comme la bande de Gaza a été en très grande partie détruite et que la Banque centrale de Palestine n'arrive pas à faire entrer des nouveaux billets, il y a une raréfaction des billets en plus de la paupérisation de la population. La cigarette sert de monnaie d'échange. C'est plus que symbolique. On va acheter à manger avec une cigarette. Le litre d'essence se négocie autour de 30 $. J'ai payé 600 $ pour une moitié de plein. La seule façon de produire de l'électricité est d'utiliser des panneaux solaires qui ne rentrent plus depuis le 7 octobre. Un panneau qui coûtait 250 € se revend 2 000 € aujourd'hui. Il y a toute une économie qui s'est construite autour de l'énergie. Les gens qui ont des panneaux solaires vendent la minute de recharge pour les téléphones. Que ce soit les organisations internationales, les ONG ou les individus, tout le monde recherche de l'électricité à Gaza. La recherche d'électricité, d'internet, d'eau, de nourriture, c'est un stress quotidien. Un shampoing est vendu à 15 $ quand on en trouve. Contrario, les légumes et les fruits sont accessibles dans le sud à un coût raisonnable. Dans le nord, on n'en trouve plus. Dans la ville de Gaza, où tout est détruit, même si on ne peut pas parler de famine totale, la sécurité alimentaire est la principale préoccupation des gens. Les habitants de Gaza sont en train de mourir dans une sorte de grand oubli. Le blocus israélien est implacable. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, le criminel de guerre Netanyahou, est reçu au Congrès américain. Il est ovationné par la quasi-totalité des députés. Quelques-uns ont refusé de se joindre à cette ovation. Et, on allait dire, en même temps, Benjamin Netanyahou vient à Paris, où il est accueilli chaleureusement par Emmanuel Macron, et où ensuite il est dans la tribune d'honneur pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Voilà la réalité de la situation, celle que vient de décrire ce témoignage terrifiant d'Alexandre Chatillon, directeur de l'ONG Supernovae, Gaza est détruit. Et pendant ce temps, pendant que Gaza est rasé de la carte, rayé de la carte, on accueille chaleureusement Benjamin Netanyahou, le criminel de guerre Netanyahou, à Paris, à Washington. C'est absolument odieux. Mais la résistance des peuples trouve toujours moyen de s'exprimer, y compris lors de la cérémonie d'ouverture, où la délégation israélienne a été huée, comme a été huée également le président Emmanuel Macron. et la délégation palestinienne a été chaleureusement applaudie, soutenue par le public. Voilà la réalité. Les peuples ne veulent pas de la guerre, ils veulent la paix. Et ils comprennent que les dirigeants, que ce soit le criminel de guerre Benjamin Netanyahou, ou que ce soit en France, Emmanuel Macron, avec les 413 milliards alloués pour la défense, au détriment de l'éducation, de la santé, etc., jouent leur rôle dans une société qui ne peut mener qu'à la guerre. Jamais les circonstances ont été aussi inquiétantes. Les prochains mois, les prochaines années, sont effectivement tout à fait problématiques. On se demande ce qui va se passer. C'est pour ça que les peuples sont fondés à réclamer effectivement l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, la fin de ces conflits qui ne font que faire planer sur la planète entière des risques de développement de guerre qui deviendraient totalement incontrôlés. Et en ce qui concerne la Palestine, parce qu'il y a là quand même un problème particulier, il y a une attitude absolument passive, voire de soutien totalement affirmé à l'armée israélienne et au premier ministre israélien, justifiant en quelque sorte un principe biblique qui voudrait que la totalité du territoire de la Palestine soit uniquement destinée au peuple juif. Mais heureusement, y compris parmi les juifs, des voix se font entendre pour dire qu'il ne doit pas en être ainsi. Que l'avenir pour la paix ne peut être fondé que sur le respect d'un principe fondamental pour tous, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quel que soit leur positionnement politique, philosophique. Une exigence, l'égalité des droits, c'est la base de toute stabilité dans cette région du monde comme partout ailleurs. Et de ce point de vue, la libre pensée et localement le groupe Pretzeler participent aux différentes initiatives et aux particuliers au rassemblement organisé pour exiger la fin des opérations militaires à Gaza et que se retire l'armée israélienne de Gaza et des territoires occupés. Il y a également, et je voudrais peut-être en faire part maintenant, des décisions intéressantes comme celle de la Cour internationale de justice qui montre que les peuples ne sont pas complètement isolés. L'agence Média Palestine informe donc de la décision de la Cour internationale de justice. Pourquoi la décision de la Cour internationale de justice contre la politique de colonisation d'Israël sera difficile à ignorer? La Cour internationale de justice, la CIJ, a déclaré illégale l'occupation à long terme du territoire palestinien par Israël, qui équivaut à une annexion de facto. La Cour a appelé Israël à quitter rapidement les territoires occupés et a jugé que les Palestiniens avaient droit à des réparations pour les préjudices subis pendant 57 ans d'une occupation systématiquement discriminatoire à leur égard. Dans ses nombreuses parties, l'arrêt représente une défaite dévastatrice pour Israël devant la Cour mondiale. Alors que de nombreux rapports des Nations unies et résolutions de l'Assemblée générale sont allés dans le même sens, l'arrêt de la Cour internationale de justice, du fait qu'il se réfère à un traité et à des lois individuelles, représente un jugement qu'il sera difficile d'ignorer. L'arrêt constitue également un démenti à l'argument d'Israël selon lequel la Cour internationale de justice n'avait pas qualité pour examiner la question au motif que les résolutions des Nations unies, ainsi que les accords bilatéraux israéliens-palestiniens avaient établi que le cadre correct de résolution du conflit devait être politique et non juridique. Rejetant cet argument, la Cour a affirmé que le droit international s'appliquait indépendamment des décennies d'efforts politiques infructueux pour parvenir à un accord de paix durable, d'autant plus qu'Israël a poursuivi l'implantation de colonies. Et l'article du journaliste britannique Peter Beaumont, en date du 19 juillet, et donc publié sur l'agence Média Palestine, se poursuit ainsi sur cette donc une décision de la Cour internationale de justice. L'arrêt, qui prend une demi-heure à lire, rassemble de nombreux éléments du droit international, des conventions de Genève à la convention de La Haye, pour défendre un point de vue que les Palestiniens et les détracteurs de la politique israélienne au sein de la communauté internationale considèrent comme évident depuis des années. En résumé, il a déclaré que des années d'ambition officielle et autoproclamée d'Israël de construire et de s'installer dans les territoires occupés équivalent à une intention d'annexer effectivement un territoire en violation du droit international. Que ces politiques étaient conçues pour bénéficier aux colons et à Israël et non aux Palestiniens vivant sous l'administration militaire. La section la plus importante est peut-être le jugement selon lequel le transfert par Israël de colons en Cisjordanie et à Jérusalem, ainsi que le maintien par Israël de leur présence, sont contraires à l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Fin de citation. Si les paragraphes individuels s'appliquant à chaque violation du droit international et à chaque incohérence ne sont pas surprenants, l'arrêt, pris dans son ensemble, constitue un profond défi pour les gouvernements, y compris le Royaume-Uni et les États-Unis, qui, pendant des années, ont fait preuve de mollesse à l'égard des politiques d'occupation d'Israël, critiquant la construction de colonies, mais, jusqu'à une date récente, ne faisant pas grand-chose de concret à ce sujet. Si les choses ont changé ces derniers mois, avec une série de sanctions américaines, britanniques et européennes visant les colons violents, à la fois individuellement et les groupes qui les soutiennent, la décision consultative pose une question bien plus sérieuse. Compte tenu de la gravité des violations du droit international, des sanctions devraient-elles également être appliquées aux ministres israéliens et aux institutions qui soutiennent l'entreprise de colonisation? Bien que non contraignant. La décision fournira de nombreuses pistes aux juristes internationaux qui examinent déjà activement les sanctions futures contre les personnes liées à la colonisation israélienne. Il est important de noter que la Cour a pris note du transfert récent et continu des pouvoirs des militaires aux fonctionnaires civils chargés de superviser les territoires occupés, ce qui, selon les critiques, exposait davantage les activités d'Israël à la Cour. La Cour internationale de justice, évidemment. Le moment choisi est également important, Israël étant isolé en raison de sa conduite de la guerre de Gaza et faisant l'objet d'une enquête de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés. L'évaluation brutale de l'illégalité à long terme de l'occupation israélienne ne fera que renforcer cet isolement. Si la décision semblait inévitable, c'est en raison de la dérive de droite d'Israël sous la direction de son premier ministre Benjamin Netanyahou, qui dirige désormais une coalition comprenant des partis et des ministres d'extrême droite favorables à la colonisation et qui a adopté exactement les politiques pour lesquelles Israël a été condamné. Fin donc de cet article du journaliste britannique Peter Beaumont du 19 juillet dernier et donc publié sur le média Palestine. L'agence Média Palestine, très précisément. J'évoquais dans mes commentaires tout à l'heure l'insécurité alimentaire et l'insécurité sanitaire pour la population de Gaza et la population de l'ensemble des territoires occupés. Mais bon, c'est vrai que c'est à Gaza que la situation est effectivement la plus grave. Et sur cette question de l'insécurité sanitaire, un autre article de l'agence Média Palestine en date du 22 juillet 2024 fait état du développement de la poliomyélite, donc dans ces fameux territoires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la poliomyélite est une maladie hautement infectieuse qui envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie totale en quelques heures. La polio touche principalement les enfants de moins de 5 ans, mais peut infecter toute personne de tout âge qui n'est pas vaccinée. En outre, une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible, généralement au niveau des jambes. Parmi les personnes paralysées, 5 à 10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés. Si on ignore comment le virus, qui avait totalement disparu de la bande de Gaza, a pu réapparaître, il est certain que l'aggravation dramatique des conditions sanitaires des Gazaouis est la cause de sa propagation. Depuis octobre, les bombardements de l'armée d'Israël ont systématiquement détruit les infrastructures sanitaires, de traitement de l'eau et d'électricité de la bande de Gaza, entraînant l'effondrement de systèmes qui étaient déjà précaires. L'eau contaminée, les eaux usées non traitées et les ordures non collectées représentent des conditions idéales pour la propagation de la maladie. La pollution issue du conflit risque d'aggraver la crise sanitaire, alertait déjà l'ONG néerlandaise Pax for the Peace dans une note publiée le 18 juillet. Comme il fait plus chaud, il y a plus de problèmes. Au-delà de la puanteur, il y a le risque des maladies et la prolifération de rongeurs ou de moustiques, Il favorise d'autant plus la propagation des maladies, déplorait également Louise Wateridge, porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA. La poliomyélite se contracte notamment par l'ingestion d'eau contaminée. Or, la quantité d'eau disponible à Gaza s'est effondrée de 94% depuis le début du conflit, selon un rapport d'Oxfam publié en juillet. L'ONG accuse Israël d'utiliser l'eau comme une arme de guerre à Gaza, avec des coupures d'approvisionnement, du pompage et de la destruction des usines de retraitement, provoquant une catastrophe sanitaire mortelle. La quantité d'eau disponible pour un Gazaoui n'est plus que de 4,74 litres par jour, soit moins du tiers de la quantité minimum recommandée dans les situations d'urgence. Aucun cas de poliomyélite n'a encore été détecté dans la bande de Gaza, a déclaré ce vendredi l'OMS. Mais cette découverte est jugée extrêmement préoccupante par Christian Lindemeyer, porte-parole de l'OMS. L'agence onusienne, d'autres agences de l'ONU et le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, sont en train d'essayer de déterminer l'ampleur de la propagation du poliovirus, a souligné Christian Lindemeyer. Une réponse rapide est essentielle pour empêcher la propagation du virus, insiste-t-il, soulignant les conditions très difficiles sur le terrain. Qualifiée de menace silencieuse par l'ONU, la crise de l'eau et des déchets pourrait contribuer à la projection de 186 000 morts anticipées le mois dernier par The Lancet. Cette étude évoque les victimes indirectes de la guerre, provoquées par la malnutrition, le manque de médicaments et les conditions de vie insalubres. Le ministère de la Santé de Gaza faisait état ce lundi 22 juillet d'un bilan de 39 006 morts et 89 818 blessés. Je rajoute comme commentaire personnel que ces chiffres ne prennent pas en compte les victimes extrêmement nombreuses qui sont sous les décombres suite donc au bombardement et à la destruction systématique des quartiers entiers de Gaza par l'armée israélienne. Autre commentaire relatif donc à cette question, à ce problème majeur de manque d'eau potable, j'évoquais en début de chronique les exactions commises par l'armée d'Israël et par des colons et qui se font photographier ou qui se filment en train de commettre ces exactions. On voit par exemple des colons qui détruisent des réservoirs d'eau dans Gaza ou dans les territoires occupés et se vantent d'avoir donc coupé cette question de cette alimentation essentielle qui est l'eau potable, donc pour les Gazaouis et les habitants les Palestiniens habitants les zones occupées. Voilà. Tout ceci confère bien que nous assistons à une volonté de détruire finalement le peuple palestinien lui-même en lui supprimant tous les moyens de vie et en le réduisant à des conditions de vie qui sont absolument insensées. Mais là encore, il n'y a pas d'autre solution que la voie dans laquelle la libre-pensée s'est engagée aux côtés de très très nombreuses autres associations à travers les initiatives diverses, rassemblements, manifestations, conférences, etc., etc., exigeant donc l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, le retrait de l'armée d'Israël de Gaza et que les convois humanitaires, et ça c'est la plus grande urgence, puissent rentrer sans aucune difficulté dans les territoires occupés et essentiellement à Gaza. Là encore, les témoignages montrent comment des centaines de camions attendent à la frontière de Gaza et ce sont les autorités israéliennes, c'est l'armée israélienne qui les empêche d'entrer, alors que juste de l'autre côté, la population vit dans des conditions, on ne peut plus, d'insécurité alimentaire absolument totale. Voilà. Alors, je crois que nous arrivons maintenant donc vers la fin de cette chronique et je vous propose de nous retrouver dès lundi prochain, nous serons donc le 12 août, pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Je verrai d'ici là si je poursuis sur cette question de cette situation terrible de Gaza ou sur d'autres sujets qui seront fonction donc des différentes initiatives que peut prendre actuellement la libre pensée. Nous ne négligeons aucun des terrains de nos terrains habituels d'action, y compris dans ces circonstances. Il n'y a pas de sélection à faire. Nous intervenons sur toutes ces questions. Voilà, à lundi prochain et bonne semaine. Merci.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord. Et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.